Ben, bonjour et bienvenue donc pour cette présentation sur la Nuit des femmes que vous venez de découvrir ou de redécouvrir sur grand écran. On va aborder des pistes de réflexion, évidemment que c'est non exhaustif et je vous invite à vous appuyer si vous voulez présenter ce film à vos élèves, à vous appuyer sur les ressources du CNC, leur livret qui est très complet. Il y a aussi une édition DVD de tous les films que Tanaka a réalisés. Donc une édition Carlotta où il y a un livret également et plein de bonus. Les films sont visibles sur Arte jusqu'à la rentrée, il me semble, septembre ou octobre. Et voilà. En tout cas, ça, les films de Kino Tanaka sont très accompagnés en France depuis leur ressortie en salle et tant mieux. Donc voilà. Il y a plein de ressources sur le sujet. On va commencer par un portrait de la réalisatrice Kino Tanaka, qui est en fait à l'origine une actrice iconique du cinéma japonais. Quand je dis iconique, elle a joué dans 250 films de 1924 à 1976, ce qui est énorme. Et elle a traversé les époques. C'est quand même la richesse de l'œuvre de Tanaka, c'est d'avoir commencé à l'époque du muet, d'avoir passé le cap du parlant au Japon et d'avoir continué, donc, même si la fin de sa carrière, voilà, les rôles se sont un peu taris. Elle est passée derrière la caméra à 6 reprises entre 1953 et 1962. Donc La Nuit des Femmes, c'est son avant-dernier film. Elle a appris de sa collaboration avec les plus grands cinéastes japonais de leur temps, qui vont de Hiroshi Shimizu à Mikio Naruse, Yasujiro Ozu à Kenji Mizoguchi. Mizoguchi, on va en parler spécifiquement. Voilà, puisque c'est un des grands maîtres de Tanaka. Et en fait, elle s'est inspirée de sa collaboration avec ses cinéastes pour réfléchir à son approche de la réalisation et pour puiser des idées par-ci, par-là. Donc voilà, je vous disais qu'une des forces c'est d'avoir traversé les époques. Elle a joué notamment dans le premier film japonais parlant qui s'appelle « Mon ami et mon épouse », qui est un film de Yenosuke Gosho qui date de 1931. Donc, 31, c'est l'époque où le parlant s'internationalise. 1930-1931, tous les pays se mettent au diapason du cinéma parlant. Donc c'est assez fou parce qu'en fait, le cinéma japonais, en Europe, on a commencé à s'y intéresser avec Rashomon de Kurosawa. Donc on est au début des années 50. Rashomon passe à Cannes et puis là, c'est comme un coup de projecteur sur le cinéma japonais qui n'a pas attendu les années 50 pour exister, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toute une histoire à retracer. Il y avait plein de films à exhumer. Donc, je vous disais que Tanaka, elle a joué dans un peu plus de 250 films et elle le disait que c'était autant de rôles de femmes différentes. Ça en fait pas mal quand même, hein, plus de 250. Je vais ajouter quand même que la plupart des personnages que Tanaka a incarnés, c'était des femmes qui s'apitoyaient souvent sur leur sort. Enfin, on va dire que c'est des personnages construits par une société donnée à un moment donné, et qui n'étaient pas forcément les personnages les plus émancipés. Je fais une généralité par rapport au rôle qu'elle a incarné. Un problème se présente dans la carrière de Tanaka en tant qu'actrice, c'est-à-dire que passé la quarantaine, et ça concerne malheureusement toutes les actrices, c'était assez difficile en fait de maintenir le cap de sa carrière. Quand elle a à peu près 40 ans, elle prend exemple sur les Américaines Joan Crawford et Betty Davis, par exemple, et elle entreprend un voyage aux États-Unis, ce qui est quand même assez historique. Elle rencontre plein de personnalités du cinéma hollywoodien. Elle prend des notes, elle prend exemple. Il faut savoir que Joan Crawford et Betty Davis, à cette époque-là, elles sont devenues productrices. Donc, en fait, elles ont sécurisé leur avenir, elles ont sécurisé leur carrière en produisant leurs films. Beaucoup d'actrices qui ont fait ça. Marilyn Monroe a fait ça. Elle est devenue productrice, elle a produit les derniers films dans lesquels elle a joué. Sauf que quand Tanaka revient au Japon, c'est pas vu d'un très bon œil le fait qu'elle soit allée aux États-Unis. Je rappelle quand même que le Japon, après la défaite de la Seconde Guerre mondiale, a été occupé par les États-Unis. Ça, c'est quelque chose qui revient dans la Nuit des Femmes et dont on va parler. Mais ça a été vu d'un très mauvais œil, elle a été conspuée, si bien qu'elle a même songé un temps à se suicider, tellement la pression était extrêmement forte au Japon. Donc, jusqu'à ce que Tanaka passe derrière la caméra, la seule réalisatrice japonaise, c'était Tazuko Sakane. Et Tazuko Sakane, en fait, et ça, c'est assez tristement révélateur du sort des films de réalisatrices dans leur ensemble, ben, tous ces films de fiction ont aujourd'hui disparu. Donc on n'a pas accès aux films de fiction de Tazuko Sakane. Et puis les films de Kinuo Tanaka, bon, il y a vraiment un travail de restauration qui a été accompli, et heureusement, on peut les voir assez facilement aujourd'hui. Un des maîtres de Tanaka, donc, c'est Mizoguchi. Sauf que Mizoguchi ne l'a pas soutenu dans son effort de réalisation. Il a déclaré qu'elle n'avait pas assez de cervelle pour tourner. Sympathique. Elle a quand même obtenu le soutien de Ozu et de Naruse, auprès desquels elle a appris, entre autres, l'art de la réalisation. La carrière de Tanaka, bon, je vous disais qu'à la fin des années 70, les rôles s'étaient un peu taris. En fait, sa carrière, on peut dire, elle a pris fin plus ou moins au terme de l'âge d'or des studios japonais, c'est-à-dire au début des années 60. Voilà donc pour cette présentation de la cinéaste. Et je vous présentais un petit peu les conditions de production, de réalisation de La Nuit des Femmes. En japonais, Onabakari no Oyu. Alors, j'ai vraiment pas un très bon accent. Hein. Mais littéralement, le titre japonais pourrait plutôt se traduire par « Une nuit où il n'y a que des femmes ». La différence est assez subtile et produit du sens quand même. C'est l'adaptation d'un roman qui s'appelle « Bien qu'il y ait un chemin », qui a été écrit par Masako Yana et qui a été publié à peu près un an auparavant, donc, ouais, qui est vraiment dans l'actualité. Tanaka, à cette époque-là, donc en tant que cinéaste, elle vient de réaliser un film qui s'appelle « La princesse errante », qui date de 1960, que je vous invite à regarder donc, sur Arte, qui est un grand film, une grande fresque, enfin, assez intimiste quand même, mais une fresque à gros budget, en technicolore, à costume, bon voilà, vraiment l'inverse en termes esthétiques de La Nuit des Femmes. C'est un mélodrame historique en couleur, c'est quand même encore un mélodrame, on constate que Tanaka, elle travaille beaucoup le mélodrame. Sauf que quand La Princesse Errante sort, le public n'est pas au rendez-vous. C'est pas un film qui rencontre franchement un succès. Et à cette époque-là, en 1960, en fait, il y a une nouvelle génération de réalisateurs qui commence à émerger au Japon, comme de partout dans le monde, et qui s'expriment, comme notamment Nagisa Oshima, Shoa Imamura, Seijun Suzuki, donc qui se mettent à réaliser des films qui tranchent avec le style des grands studios japonais. En plus de ça, ces jeunes réalisateurs émergents, ils critiquent les studios pour leur absence de conscience sociale et politique. C'est vraiment il y a un renversement de mœurs, on va dire, dans le cinéma japonais. Bon, en France, on a eu la nouvelle vague à cette époque-là. Donc là, c'est la nouvelle vague japonaise au début des années 60. Donc, c'est assez logiquement, les studios, donc en l'occurrence la Toho, qui produit La Nuit des Femmes, décident de se tourner vers des sujets plus quotidiens, dans un style épuré, donc d'épouser ce changement esthétique en cours dans le cinéma japonais. Donc La Nuit des Femmes s'inscrit totalement dans cette démarche-là. Pour autant, Tanaka ne va pas non plus se détourner du mélodrame avec La Nuit des Femmes, elle va plutôt préférer réactualiser le style du mélodrame. Donc en fait, le remettre à l'heure du début des années 60. Donc, je vous disais, à la fin des années 50, pour recontextualiser un petit peu où en est le studio Toho qui produit le film, la Toho devient le plus puissant studio japonais. Et ce, grâce au succès international de deux films, à savoir Godzilla, qui est sorti en 54, de Ichiro Honda, et Les Sept Samouraïs, qui est sorti la même année, de Akira Kurosawa. Deux films qui ont qui ont participé à la renommée du cinéma japonais à l'international. La Toho donc approche Tanaka pour lui proposer de produire son film et lui propose de mettre les moyens. Donc c'est quand même un film qui a du budget, La Nuit des Femmes. Donc ils promettent un budget confortable et un casting prestigieux. Casting prestigieux qui est composé de d'actrices, parce qu'il n'y a pratiquement que des actrices dans ce film qui ont toutes à un moment croisé la carrière de Tanaka, tandis qu'elle était elle-même actrice. Donc il y a le soutien de la Toho, et donc grâce à ce budget confortable et au soutien du studio, Tanaka, elle a le concours de techniciens expérimentés, dont le chef opérateur Akazu Nakai, qui est un fidèle collaborateur de Kurosawa. Donc, qu'il y a quand même, enfin, je pense que vous avez remarqué que la photographie du film est assez travaillée quand même. Et donc, à Kazunakai, il se tourne vers le format tohoscope. L'autoscope, c'est l'équivalent du cinémascope. C'est l'équivalent japonais du cinémascope, à savoir un format d'image, de cadrage qui élargit l'écran. Vous avez remarqué que les cadres sont très larges et on va parler de comment ce choix de cadrage, il influe sur, ce choix de format, il influe sur le cadrage, sur la composition des plans. Donc on va en parler un petit peu plus tard. La musique est composée par Hikaru Hayashi, qui vient de signer la bande originale d'un film à succès, une fois de plus, qui s'appelle L'île nue, qui a été réalisé par Kaneto Shindo, donc qui est sorti en 1960. Et le casting, j'en parlais, hein, il se compose presque exclusivement de grandes vedettes. Grandes vedettes qui ont croisé chacune le chemin de Tanaka. À l'exception de l'actrice principale, qui s'appelle Shizako Hara, que voici, qui est débutante, enfin plus ou moins débutante à l'époque où sort La Nuit des Femmes. En tout cas, c'est son premier grand rôle au cinéma, enfin son premier rôle. Là, je vous ai mis une image d'un film qui s'appelle Pourquoi sont-elles devenues ainsi, qui est un film de Hiroshi Shimizu et qui date de 1956, donc 4 ans à peine, enfin 4-5 ans avant La Nuit des Femmes. C'est intéressant parce que c'est un film sur une maison de jeunes filles, donc en fait une école de délinquantes, qui a une filiation entre Pourquoi sont-elles devenues ainsi et La Nuit des Femmes. Titre français très évocateur d'ailleurs. Donc pour conclure sur la production du film, hein, c'est le fruit d'un travail de recherche sur le terrain de la part de Kinuo Tanaka et de sa scénariste Sumie Tanaka. Et donc elles sont allées en centre de réinsertion, donc le fameux centre qu'on voit dans le film, hein, qui s'appuie sur des recherches assez concrètes. Et cette enquête poussée déconcerte la réalisatrice et la scénariste. À l'inverse de Kinuo Tanaka, Sumie Tanaka, donc la scénariste du film, elle garde une amertume envers la prostitution, alors que Tanaka, elle se refuse à juger les femmes qu'elle rencontre. Et donc cette tension, on la retrouve au sein du film. On retrouve cette tension, sachant que le film aborde la question délicate de la prostitution et refuse de prendre parti, en fait. Surtout concernant la prostitution dans la société japonaise du début des années 60. Donc on va revenir, hein, sur cette tension entre on va dire plus le point de vue de la scénariste et le point de vue de la réalisatrice, qui permet de créer un débat. Donc ça, et même donc avec les élèves, quoi, de parler aussi, d'aborder la prostitution. Donc c'est avant tout La Nuit des Femmes, un portrait de la prostitution. Pour replacer dans le contexte, au Japon, la prostitution est pénalisée à partir de 1956. Et à partir de cette année-là, les maisons closes ferment, ce qui fait passer la pratique dans l'illégalité la plus totale. Donc les travailleuses du sexe se retrouvent, sans rien, et puis en même temps jugées par toute une société. Et donc en parlant de prostitution, je voulais relier La Nuit des Femmes avec deux films de Mizoguchi qui traitent de ce sujet. Le premier étant Les Femmes de la Nuit. Vous voyez que les titres quand même se répondent assez fortement. C'est un film qui date de 1948 et que Mizoguchi a réalisé avec des moyens de série B, quoi, avec très peu de moyens. Si on faisait la traduction littérale du titre en japonais, ce serait plutôt « Des femmes qui sont en activité la nuit, mais où il peut y avoir des hommes ». Bon, ce serait un titre un petit peu long si on traduisait comme ça. Donc, d'une certaine manière, on peut considérer que Tanaka, avec La Nuit des Femmes, elle vient compléter une trilogie informelle entamée par Mizoguchi, donc, qui a réalisé deux volets autour du sujet de la prostitution, et La Nuit des Femmes viendrait compléter, augmenter cette trilogie qui n'a pas été terminée par Mizoguchi. Donc, dans Les Femmes de la Nuit, Kinuo Tanaka incarne une prostituée. Donc là, c'est intéressant qu'elle est devant la caméra dans ce film et puis elle passe derrière en 1961. Mizoguchi, à cette époque-là, il tourne dans les décombres de Tokyo, qui se relève péniblement de la défaite de la Seconde Guerre mondiale. Et en filmant cette ville en ruine, il fait le constat d'une société détruite par la guerre et surtout gangrénée par l'occupation américaine. Il faut savoir que le pays a été occupé quand même par les Américains et ça ajoute en tension dans cette société qui peine à se reconstruire. Donc Les Femmes de la Nuit, c'est un film qui constate la destruction et, La Nuit des Femmes, plutôt un film qui sera sur la reconstruction du personnage et à travers ça, peut-être réfléchir à la reconstruction d'une société dans son ensemble. Mizoguchi, de manière générale, dans son cinéma, il est fasciné par les petites gens, y compris les prostituées, mais pas seulement. On peut dire que c'est un cinéaste humble et réaliste qui met en scène ce que les femmes éprouvent à travers tout type de récit, surtout en étant contrariées. Donc, c'est un cinéaste qui s'est intéressé à plusieurs époques historiques différentes, toujours des temps troubles entre deux, il scrute ces personnages et leurs réactions, comment les personnages se démènent dans ces temps troubles. Et souvent dans ses films, et notamment dans ses films sur la prostitution, en fait, il expose l'argent comme unique valeur de régulation. Et donc, c'est de cette valeur de régulation que se déroule la violence. La violence est liée à l'argent. Et donc, de ce fait, Mizoguchi, vu qu'il se centre sur cette question fondamentale, il n'abolit ni ne juge la prostitution. Donc ça, c'est quand même un point de vue qu'on retrouve dans La Nuit des Femmes de Kinuo Tanaka. Donc là, je cite Anastasia Marshall, qui a écrit un article sur un site qui s'appelle Le Comptoir, si vous voulez le lire en entier. Et elle explique « C'est par la prostitution que la véritable violence sociale qu'est l'argent apparaît. » Intéressant. Donc ça, c'est un article à propos du cinéma de Mizoguchi. Et si vous voulez donc poursuivre, creuser la thématique, je vous conseille deux vidéos Blow Up. Donc Blow Up, c'est une chaîne de Arte, une émission sur Arte, que vous pouvez voir sur Arte ou sur YouTube. Donc deux vidéos, la première, Face à l'histoire, Kenji Mizoguchi, et la deuxième, La prostitution au cinéma. Donc ça, c'est beaucoup plus vaste et ça questionne la mise en scène de la prostitution à l'écran. Voilà, donc ça, c'était une image promotionnelle du film. Je vais aller un petit peu plus sommairement sur le deuxième film que Mizoguchi dans lequel il a exploré ce sujet, qui est La rue de la honte, qui date de 1956, donc à l'époque de la pénalisation de la prostitution au Japon, année charnière. Il faut savoir que c'est le dernier film que Mizoguchi a réalisé. Donc c'est comme si Tanaka reprenait le flambeau de son maître. Il est tourné donc en plein débat sur la pénalisation de la prostitution, et c'est à travers le portrait de la solidarité féminine que le cinéaste va mettre à mal le puritanisme de la société nippone. Ça, c'est une thématique qu'on retrouve dans La Nuit des Femmes. Le puritanisme et la tentative d'accès à la modernité de cette société. Donc dans le film de Mizoguchi, les travailleuses du sexe, elles forment une micro-société qui est très soudée, et la maison close devient presque un lieu de salubrité publique, tel que Mizoguchi l'expose, dans un contexte d'après-guerre. D'où l'hypocrisie de cette société et de la pénalisation de ce métier. Je fais la transition avec La Nuit des Femmes, avec ce portrait de prostituée donc dans la maison de rééducation, de redressement, j'ai envie de dire. Donc ces prostituées très américanisées, pimpantes dans La Nuit des Femmes, qui sont, en plus, avec ce choix de cadrage, qui sont reléguées à la gauche du cadre, tandis que les employés de la maison sont à la droite du cadre. Donc les deux catégories de femmes, les deux familles de personnages sont scindées, séparées symboliquement par un espace vide dans le plan. Donc, La Nuit des Femmes, je vous disais, s'inscrit dans la lignée de Mizoguchi, bien que le traitement de Tanaka soit dans une veine sociale, presque documentaire. Donc Tanaka, elle tire profit du procédé Tooscope. Tanaka est son chef opérateur. Dans des espaces contraints, vous avez très sûrement remarqué que beaucoup de plans de la nuit des femmes sont étouffants, grouillent d'informations, de figurantes, d'éléments de décor, que l'héroïne est souvent étouffée, comprimée. Là, c'est le cas dans ce plan-là, puisque Kuniko est filmée donc, de dos, tandis que toutes les autres ouvrières sont filmées de face et disséminées un petit peu partout dans le cadre, y compris dans la profondeur de champ. Donc la Tooscope permet une grande profondeur de champ. Et c'est une manière donc, pour Tanaka de multiplier les visages et les corps dans le cadre. Donc, quelques plans donc, d'images de la prostitution dans la nuit des femmes. Ici, c'est quand Kuniko donc, prend la décision de quitter son emploi chez les épiciers et qu'elle va au salon de coiffure et puis qu'elle regrette presque son ancienne vie. Et donc, elle se balade dans des rues. Comme ça, c'est comme le fantôme des films de Mizoguchi, parce que vraiment, la rue de la honte, c'est à peu près cette esthétique dans des rues sombres avec des néons, etc. Et c'est là qu'elle se fait repêcher par un policier et qu'elle retourne au centre. Une image des bas-fonds. Autre image, en fait, c'est à travers sa pratique, son ancienne pratique, que Kuniko, elle va peu à peu s'émanciper, en tout cas s'émanciper du regard des hommes. Mais ça se fait vraiment étape par étape. Et donc là, elle, c'est quand elle travaille à l'usine et qu'elle va provoquer des hommes qui pensent pouvoir coucher avec elle. Et ça, elle va carrément arriver à les faire fuir. Elle s'assoit donc dans un cylindre, comme ça, donc il y a un cadre dans le cadre, circulaire, et elle les confronte en écartant ses jambes, comme si elle renversait le regard, en fait. Donc c'est elle et son sexe qui les regardent, et c'est ça qui va faire fuir ces hommes. Bon, après, la scène est filmée de manière étouffante, puisqu'il y a le chemin de fer, enfin, des trains qui passent au-dessus, enfin, il y a quand même une sensation d'enfermement. Et donc, on parlait de la tension autour de ce débat causé par les positionnements de la scénariste et de la réalisatrice. On retrouve cette tension dans le dialogue entre Madame Nogami, donc, qui est la directrice du centre, et Kuniko, quand elle revient, qu'elle est rescapée après l'assaut des ouvrières. Il y a une discussion autour du sujet donc, du travail du sexe et sur l'illégalité présumée et l'immoralité de cette pratique. Donc ça incarne vraiment littéralement la réflexion active de la scénariste et de la réalisatrice qui ne tranche pas. Enfin, vraiment, c'est pas du tout un film qui juge ou qui tranche La nuit des femmes. Au contraire, qui ouvre un débat, en fait, sur cette question. Et donc... Donc Madame Nogami dit hein, « Un corps n'est pas un objet, ce n'est pas bien de vendre son corps. » Ce à quoi Kuniko répond hein, « En quoi est-ce mal ? On vend ce que les hommes veulent. Vous vendez bien votre temps et votre cerveau pour un salaire. » De quoi faire cogiter un petit peu. Et elle lui répond, j'ai mis vraiment que le point de vue de Kuniko, qui lui répond « Qu'y a-t-il de vraiment mal là-dedans ?» Et puis elle conclut par « Oui, mais certaines, ils sont forcés pour pouvoir survivre. » Donc c'est cette question, c'est ce que Mizoguchi exposait dans ses films, hein, de l'argent en fait, d'être forcé de devoir se prostituer pour survivre dans cette société en pleine reconstruction. J'en viens de manière assez logique à la question de la des dominations et des enfermements dans La nuit des femmes. Et on va parler encore une fois de cadrage. Donc l'utilisation du plan d'ensemble, au début du film, il instaure un rapport de force. Le rapport de force est illustré par la manière dont sont disposés les sujets dans le cadre. Là, c'est vraiment l'ouverture du film avec les visiteuses qui viennent dans le centre, à qui on présente les différentes activités des... j'ai envie de dire des détenus, enfin, c'est presque ça, quoi, dans le centre, qui sont carrément exploités. Et donc, ces femmes notables, on le voit dans ce cadre notamment, elles se tiennent debout, elles ont accès à la profondeur de champ, donc à une ligne de fuite, tandis que les femmes qui travaillent sont à genoux dans une posture humiliante et n'ont pas la capacité de s'enfuir symboliquement du cadre. C'est une manière d'analyser comment les corps sont positionnés dans le cadre et ce que ça raconte de ce rapport de force. Vous voyez donc qu'un Kotanaka a une approche assez réaliste de l'espace. Enfin, la profondeur de champ, le fait que l'image soit nette même dans la profondeur de champ, permet un réalisme de l'image. Donc quelques autres exemples de domination dans le cadre. Ici, donc, c'est pas la directrice, mais c'est des employés. Oui, voilà, c'est une médecin dans le centre qui vient inspecter les ouvrières dans leur besogne, quoi. Et qu'on voit que les ouvrières sont assises, ont le regard baissé sur leur tâche, pendant que ces femmes sont debout et les inspectent, ont un ascendant sur elles dans le cadre. Et encore une fois, là, les ouvrières sont assises, n'ont pas le droit de parler, et ces femmes commentent, parlent, et puis de manière pas forcément méchante, quoi, mais en tout cas, elles commentent ce qu'elles voient, elles s'indignent ou elles s'amusent un petit peu, bon, voilà. Ce cadrage, donc, il implique une relation de subordination qu'on comprend, qui est plus qu'implicite, quoi, quand même, au début de la Nuit des Femmes. Et donc, on comprend à travers ces pastilles que ces femmes, qu'elles soient sur le trottoir ou dans ce centre, elles travaillent. Le travail, il est vraiment au cœur de la Nuit des Femmes. Ce que le labeur, je dirais même, ce que le travail fait au corps de ces femmes et au corps de Kuniko. On va reparler de ça, mais à quel point ce personnage est accablé par la rudesse de son travail. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est plutôt le terme « travail du sexe » qui est privilégié à prostitution. On met plutôt l'accent sur le fait que c'est un travail. Et donc ces plans, ils racontent l'hypocrisie d'une société corsetée, surtout ce plan en question, donc qui est en extérieur, mais tout de même où, donc là c'est Kuniko et une camarade qui sont... enfermés en fait par ces grilles et qui sont en train de ratisser le sol pendant que ces femmes rentrent tranquillement chez elles de l'autre côté du grillage. On remarque aussi une différence par rapport au costume des personnages. Donc elles sont, enfin les détenues, je vais utiliser ce terme, sont habillées de manière uniforme, quoi, alors que toutes les autres femmes sont assez chic, on peut le dire, enfin en tout cas. Tenue à quatre épingles, et il y a notamment cette femme qui va parler à Kuniko, qui est en habit traditionnel. Autre image d'emprisonnement, donc là c'est quand Kuniko revient au centre après l'agression des ouvrières. Et donc ces femmes, donc on parlait d'accumulation des visages et des corps dans le cadre, notamment ça permet à Tanaka de filmer des grimaces, des visages qui s'expriment de manière très exagérée, quoi. Donc là, elles sont littéralement derrière un fil barbelé et un grillage. Et derrière des barreaux. Donc là, c'est lorsque une des anciennes prostituées est amenée, donc un énorme chagrin d'amour, quoi, et elle est emmenée, pour le coup, dans la profondeur de champ. Donc l'hypocrisie d'une société corsetée, et surtout, ça met en exergue donc, un état vigilant qui veille à des sujets qui sont considérés comme problématiques et qui sont infantilisés. Tout le monde au début du film. Et ces anciennes prostituées sont objectivées par le regard dominant des femmes qui viennent les visiter, qui peuvent s'échapper, elles sont juste de passage dans cet établissement. Et ces anciennes prostituées n'ont pas voix au chapitre. En fait, il y a un exemple qui est assez frappant, c'est quand les notables vont visiter une jeune mère là, dans sa cellule. Et vous avez sûrement remarqué que la jeune mère en question ne parle pas. Elle n'ouvre pas la bouche. Et ce sont les femmes qui commentent son parcours et sa situation. Donc même en dehors du centre, ces femmes, elles sont soumises à un contrôle assez étouffant, comme si leur vie était mise sous tutelle, comme si elles n'avaient pas le droit de s'émanciper. Et c'est toute la quête de Kuniko, c'est de s'émanciper, justement. Donc un contrôle a commencé par celui de leur ancien macro, donc qui ne les quitte pas. Et là, c'est ce mystérieux personnage masculin dont on voit une photographie un moment dans le film et en fait qui se présente à Kuniko à la fin du film. Vous voyez comment il lui tient le poignet. Donc vraiment littéralement dans cette scène-là, elle essaie de se lever, etc. Mais lui tente de la maintenir au sol, de l'assujettir. J'en viens à la question de la responsabilité des hommes dans La Nuit des Femmes et au traitement des personnages masculins. Il y a peu de personnages masculins au regard de tous les autres protagonistes féminines, mais ils sont globalement considérés comme défaillants. Ils sont traités en tout cas avec ironie. Alors, je ne dirais pas que La Nuit des Femmes, c'est un film comique, mais il y a une certaine légèreté parfois. Quant aux femmes, elles se débattent face à ces intérêts patriarcaux, qui est quand même le centre du problème, quoi. On vous a mis quelques citations, notamment cette citation, qui est « Les hommes ne pensent qu'à faire souffrir les femmes ». Et puis on revient à la fameuse scène où les notables s'en vont, comme ça, de l'autre côté du grillage, et Kuniko et sa camarade discutent, et sa camarade lui dit « Je les envie, elles ont un mari qui les attend ». Ce débat, donc, ça alimente le débat sur la prostitution, cette réflexion, parce qu'en fait, cette réflexion remet en question la légitimité du mariage traditionnel. Pourquoi ? Parce que Kuniko répond « Qui sait ce qu'ils leur font ?» La légitimité du mariage traditionnel dans la société japonaise des années 60, encore très marquée par les conventions et des codes très stricts. Est-ce qu'une femme qui se marie à cette époque-là, quelque part, ne se prostitue pas un petit peu ? C'est une question extrêmement moderne, quand même, qu'aborde Tanaka à cette époque-là. Et donc Kuniko dit « Les hommes devraient aussi aller en maison de redressement ». Des hommes qui sont des prédateurs, mais dont la protagoniste se défend assez facilement, parce que finalement, les seuls qui vont l'agresser, malheureusement, ce sont des femmes. Donc, voilà ce que le patriarcat fait aux femmes aussi. Donc là, c'est quand elle travaille chez les épiciers, elle essaie d'échapper au regard de ces hommes-là qui l'encerclent dans le cadre, comme des prédateurs. Et donc, Kuniko, il faut savoir qu'elle, elle va à l'encontre de cette rigidité morale, elle va à l'encontre de ce qu'impose la société japonaise à cette époque-là. Et elle va carrément faire imploser le couple d'épiciers en révélant ce qui était dormant, hein, c'est-à-dire le désir de l'épicier pour elle, et donc en révélant les vices cachés du mari, dans cette scène où elle le saoule puisqu'elle ne se saoule, puisqu'on comprend qu'elle tient quand même très bien l'alcool. Et donc où elle va chez le coiffeur et qu'elle revient avec cette permanente très américaine, très occidentale. Ça, c'est aussi un peu une métaphore de comment les États-Unis se sont imposé leur soft power quoi, dans la société japonaise. Après cette scène-là, le lendemain matin, elle défie son employeuse. Elle ne baisse pas les yeux et elle affiche ouvertement son américanisation. Quand même une grande provocation, quoi. Donc cette influence des États-Unis, elle accélère la modernisation du Japon à cette époque-là. Et donc des mœurs japonaises, c'est par l'américanisation qu'on comprend qu'il y a une tension entre la modernité qui s'impose et les traditions japonaises. Donc on parlait des hommes qui rendent malheureuses au début du film. Et c'est le cas, malgré lui, de Tsukasa, qui est peut-être le seul personnage masculin dit positif quoi, du film, et qui est le fiancé de Kuniko pour un bref instant, qui lui-même est un petit peu décevant, d'une certaine manière, puisqu'il se range quelque peu du côté de l'opinion de ses parents avant de revenir, mais c'est trop tard, voilà, de réaliser qu'il a envie d'être aux côtés de Kuniko, sauf que Kuniko est déjà partie. Elle a déjà pris le large. Ça, c'est vraiment l'affront final pour Kuniko, l'impossibilité de concrétiser son amour avec Tsukasa et de l'épouser. Parce que Tsukasa, il est issu d'une famille d'anciens samouraïs qui a un honneur à préserver, etc. Enfin, c'est assez absurde, le discours de ses parents. Je continue avec, donc là on va faire vraiment un parallèle avec une cinéaste américaine qui s'appelle Aida Lupino, dont on parle pas mal ces dernières années puisque son travail a été valorisé. Et une fois de plus, c'est assez facile de voir ses films. Je crois qu'à une époque, il y avait un petit documentaire sur elle sur Arte. Il y a un coffret DVD qui est sorti. Toute une éditorialisation de certaines des réalisations d'Aida Lupino. Ada Lupino, si on regarde sa carrière, elle a commencé en tant qu'actrice. Quand même, à l'origine, c'est une actrice hollywoodienne très prolifique. Elle a réalisé environ une soixantaine, enfin, elle a joué dans une soixantaine de films. Alors, c'est pas du niveau de Tanaka, mais en même temps, 250 films, c'est compliqué quand même. Et elle a notamment joué une geôlière sadique dans un film qui s'appelle Femme en prison. Ouais, je trouvais ça marrant, si on peut dire. Une fois de plus, la filiation lointaine avec les femmes de la Nuit des femmes, pardon. C'est un film de 1955. Lupino, dans les années 50, c'est la seule femme qui est passée derrière la caméra, qui a réalisé des films à Hollywood. Bon, je ne vais pas m'attarder sur pourquoi il n'y a pas de réalisatrice dans les années 50 à Hollywood, ça c'est une autre histoire. Toujours est-il qu'en plus, elle le fait de manière indépendante. Donc elle essaie de se libérer du joug des studios hollywoodiens. Elle réalise son premier film en 1949, elle a 31 ans, et ce premier film s'appelle « Avant de t'aimer ». Et ça se fait, bon, en fait, c'est un projet où elle remplace au pied levé le réalisateur Elmer Clifton. En fait, elle produit déjà le film. Elle le produit avec une société de production qu'elle a fondée avec son mari, qui s'appelle The Filmmakers. Et elle en a déjà écrit le scénario. Donc bon, voilà, assez logiquement, elle va le réaliser. Puis ensuite, elle va réaliser d'autres films. Avant de t'aimer, parle de l'histoire d'une jeune fille de 19 ans qui se retrouve mère célibataire dans une société américaine qui ne la tolère pas. Donc ça, c'est troublant de constater que Lupino comme Tanaka, elles abordent des thématiques qui sont quand même assez complexes et qui sont peu mises en lumière. Enfin, c'est quand même un euphémisme, quoi, par le cinéma de leur époque, que ce soit le cinéma hollywoodien ou japonais. Et de manière générale, ce que va faire Lupino, c'est qu'elle va aborder des thèmes de société forts. Ces scénarios s'inspirent d'histoires vraies, s'inscrivent dans le réel. Elle aime les déclassés, elle aime les outsiders. Et là, je cite donc le documentaire Arte, tout ça dans une Amérique de petits boulots, dont la préoccupation n'est pas l'argent, mais le bonheur de vivre, l'espoir d'un avenir sentimental meilleur, filmé à hauteur d'yeux. Donc Lupino, elle se situe à hauteur de ses personnages. C'est plus ou moins le cas de Tanaka dans La Nuit des Femmes. Encore une fois, là, il peut y avoir débat sur ça. Parce que, notamment au début du film, est-ce qu'on ne serait pas plutôt du côté du regard des notables quand on visite le centre, quand on nous introduit le centre de cette manière-là? En tout cas, comme Lupino, Tanaka, elle aborde des sujets difficiles qui concernent l'expérience féminine. Sous ses multiples facettes. Donc voilà encore, on parlait de regard, du regard féminin au cinéma. C'est une des caractéristiques peut-être, c'est de mettre en lumière des sujets difficiles qui sont souvent peu abordés. Et en parlant de sujets difficiles, dans Maternité éternelle, en 1955, Tanaka, elle aborde le cancer du sein à travers le portrait de la poétesse Fumiko Nakajo. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Voilà. En tout cas, c'est un film vraiment très beau. Et donc, on va regarder deux très courts extraits de Outrage de Ada Lupino, qui date de 1950, qui est peut-être son film le plus connu, qui est un film de commande pour la RKO, dont le sujet est difficile, puisqu'il traite du viol et de ses traumatismes. Donc c'est assez frappant, quand on regarde les films de Lupino, de constater leur modernité, leur actualité dans leur traitement. Et elle fait tout ça du point de vue de son héroïne. Héroïne qui s'appelle Anne Walton, qui habite dans une petite ville américaine et qui va donc... il y a l'assaut au début du film et puis qui va tenter de se reconstruire malgré la pression sociale, l'incrédulité, etc., etc. Film à petit budget, enfin assez simple en termes de réalisation, mais pour lequel Lupino va, on va le constater, beaucoup s'inspirer des codes du film noir, des codes de mise en scène et de narration du film noir. Comme Kino Tanaka dans La Nuit des Femmes, vous allez voir, je vais vous montrer une scène qui évoque une scène en particulier dans La Nuit des Femmes. Bon, je ne vous montre pas la scène difficile, quoique magnifiquement mise en scène, du viol. C'est vraiment la transition entre la fin de la scène et donc Anne qui se traîne, vous allez voir, jusqu'à chez elle, jusqu'à chez ça, enfin, qui va retrouver sa mère. Scène qui fait écho à quand Kuniko se sauve de l'usine et rejoint le centre et se traîne jusqu'au centre. Donc voilà la première scène d'outrage, enfin très brève, pour illustrer donc ces codes de mise en scène du film noir, utilisation de clair-obscur, un mystère qui plane aussi, qui est véhiculé par l'interprétation de l'actrice qui joue Anne. Anne est décomposée, elle revient chez elle en se traînant, elle est choquée, incrédule, de la même sorte que Kuniko revient au centre. On peut d'ailleurs mettre le mot sur ce que Kuniko subit à l'usine, c'est un viol. Donc en fait, elle est rescapée d'un viol et Tanaka, elle n'en fait pas le sujet central de son film, mais le temps de cette scène-là, elle met en scène le choc émotionnel, physique que traverse son personnage. Quelques captures de La Nuit des Femmes. Avec, une fois de plus, cette compression du cadre, cet enfermement par la manière dont les autres personnages sont disposés dans le cadre. La scène en question, qui est assez rude, quand même, à regarder. Et puis, le plan parallèle de Kuniko se traînant jusqu'au centre, qui évoque quand même très fortement outrage. Et donc Kuniko qui est rescapée, puis soignée. On va regarder un deuxième extrait, très bref, une fois de plus, d'outrage. On nous disait que c'est un film qui s'intéresse à la reconstruction de son personnage. Là, on est vraiment au début. Et c'est une scène d'interrogatoire. Je ne vous en dis pas plus, vous allez, je pense, faire très vite le parallèle avec les choix de mise en scène de Tanaka dans son film. Parce qu'il y a une idée de cadrage très forte. Bon, scène très, très difficile. J'ajouterai que la tragédie d'Anne dans Outrage, c'est qu'en fait, ce qui lui arrive et qui n'est pas de son ressort... la marque, puisque on est à une époque où, dans une société puritaine états-unienne, une femme se doit d'être vierge avant de se marier. Donc elle est fiancée. Bon, voilà. C'est vraiment de la même manière que Tanaka déroule une réflexion sur les traditions de sa société. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que comment cette reconstruction va être entravée par les mœurs de l'époque aux États-Unis. Vous avez remarqué les barreaux du lit qui viennent scinder le plan en deux et qui se superposent sur le visage d'Anne qui est en détresse absolue, qui est emprisonnée, on le comprend, dans cette scène-là, enfin, surtout qui subit un stress post-traumatique assez intense, de la même sorte que Kuniko le vit une fois qu'elle est recueillie dans le centre. Donc là, c'est un autre plan de sa discussion avec Madame Nogami. Elle lui dit quel monstre peut faire ça. Donc on la voit se décomposer complètement. Alors Kuniko, c'est un personnage qui souffre énormément, mais qui a une dignité et qui a une résilience assez impressionnante dans le film. Et c'est la seule fois où on la voit, enfin, une des seules fois où on la voit véritablement craquer, mais vraiment tout relâcher, quoi. Où on a accès à sa colère, plus que sa tristesse, puisque quand elle apprend qu'elle ne peut pas épouser Tsukasa, elle s'écroule, mais elle est triste, quoi. Puis ensuite, elle atteint d'une forte fièvre. Donc, j'en viens à parler du personnage en question, Kuniko, qui est comparé dans le film à une rose sauvage. Donc, on va parler de la symbolique des fleurs dans le film et de manière générale au cinéma. Avec une capture de... Donc là, c'est comment dire, le chemin de rédemption de Kuniko qui, pour la première fois dans le récit, travaille pour des employeurs qui sont bienveillants et qui sont bienveillants, quoi. Et donc c'est là qu'elle rencontre Tsukasa, dans la roseraie, qui lui présente des variétés de roses. Ici, une rose qui s'appelle Happiness, donc bonheur. C'est la perspective du bonheur pour Kuniko qui se reconstruit doucement et qui essaie de se réconcilier avec l'idée qu'elle a le droit au bonheur et puis avec sa rencontre avec Tsukasa qu'elle a le droit de vivre son amour, même si ça ne va pas franchement bien finir. Une autre variété qui s'appelle Pureté, ce qui est assez cynique étant donné le passé de Kuniko qui à ce moment-là ne sait pas que Tsukasa est au courant de son passé, qui n'en a que faire, qui ne la juge pas. Le premier amour, voilà la perspective qui s'ouvre à Kuniko qui jusque-là méprisait les hommes et en fait était totalement désespérée par rapport aux hommes. Donc c'est la perspective d'un bel amour qui s'ouvre à elle et qui est symbolisée donc là, par la présence de cette rose dans sa chambre à côté du portrait de son bien-aimé. Une des rares fois où on voit le personnage sourire d'ailleurs. Et donc un gros plan de rose dans le film. Inutile de préciser que la fleur, hein, c'est quand même la métaphore de l'anatomie féminine. Et que nombreuses sont les problématiques intimes que Kinuo Tanaka aborde dans La Nuit des Femmes. Problématiques féminines qui vont de la ménopause jusqu'aux maladies vénériennes, à la mutilation ou aux grossesses non désirées. Donc on parlait de sujets difficiles, Tanaka, elle y va franchement. Fait notable pour l'époque, elle met aussi en scène le lesbianisme à travers... le lesbianisme en plus comme manière parmi tant d'autres d'exister par les femmes, qui est pas forcément, elle ne proscrit pas forcément ça quoi dans son film, et c'est porté par le personnage de Kameju. Bon, quand même, sa relation lesbienne prend un tournant assez tragique. Hein, c'est pas non plus un traitement positif du sujet. Donc la fleur comme métaphore de l'anatomie féminine, les exemples sont assez nombreux au cinéma. Enfin, moi, je cite souvent l'exemple d'Alfred Hitchcock, qui a beaucoup mis en scène les fleurs dans ses films, surtout dans Vertigo, et ce, dès le générique du film, avec ses spirales, qui ressemblent un peu à des fleurs. Vertigo, qui est un film qui parle de la condition féminine dans un cadre patriarcal, et de ce que ce cadre-là fait au personnage de Judy. Et dans Pas de printemps pour Marnie, donc il y a vraiment la métaphore des fleurs qui est filée dans Pas de printemps pour Marnie, si vous l'avez vu. Moi, je voulais vous mettre le générique d'un film, alors vraiment qui n'a pas grand-chose à voir avec La Nuit des Femmes, mais qui s'appelle Le Temps de l'Innocence, un film de Martin Scorsese qui date de 1993. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est l'adaptation d'un roman d'Edith Wharton qui parle de la haute société new-yorkaise à la fin du XIXe siècle. Et donc, à cette époque victorienne, de l'impossibilité d'une histoire d'amour très forte entre deux personnages, donc Newland Archer, qui est ici joué par Daniel Day-Lewis, qui est un homme de la haute société, qui se destine à épouser une oie blanche qui est jouée par Winona Ryder, et en fait, qui tombe follement amoureux, et c'est réciproque, de la comtesse Olenska, qui s'apprête à divorcer, et qui est une femme libre, jouée par Michelle Pfeiffer. Donc l'amour entre Olenska et Newland Archer ne pourra pas fleurir, si on peut dire. Et, donc, je vais vous mettre le générique du film, qui a été conçu par Elaine et Saul Bass, un des grands concepteurs, conceptrices de génériques de films, d'affiches de films. Je vous en dis pas plus, vous allez... Voilà, regardez la métaphore des fleurs dans ce générique. Voilà, très beau générique, très délicat, du temps de l'innocence, où on voit des fleurs s'épanouir en time-lapse. Sauf que ces fleurs qu'on comprend bien, qui sont la métaphore de l'expansion, de l'émancipation des femmes, ces fleurs, dans leur mouvement, sont empêchées par deux filtres, donc un filtre d'écriture, j'interprète ça comme les candiratons d'une société d'une haute société très portée sur les ragots, et un filtre de dentelle, donc tout ce que ça pourrait incarner des conventions de bonne tenue des femmes à cette époque-là. C'est exactement ce que va raconter le film. Et on retrouve exactement cette problématique hein, dans La Nuit des Femmes. Donc pour finir hein, sur Kuniko, elle est comparée à une rose sauvage par Tsukasa. qui lui dit qu'elle a de solides épines. Donc Kuniko, dans sa délicatesse et dans sa féminité, c'est aussi un personnage très fort et qui se défend, qui a développé des épines. On parlait de sa résilience, c'est quand même un mot assez fort et assez juste pour décrire son parcours. On va finir avec la question de l'émancipation de Kuniko, qui est quand même la colonne vertébrale du film, et ce chemin tortueux qu'on suit à travers ses multiples expériences chez divers employeurs. Et on parlait du travail, mais Kuniko, elle en bave dans le film. Hein. Son ancienne vie, on comprend en creux qu'elle lui offrait une certaine liberté, même si cette liberté était illusoire. Et c'est, d'ailleurs, au début, elle hésite hein, quand elle retourne dans les bas-fonds et qu'elle se demande si finalement ça ne vaut pas le coup de revenir à son ancienne profession. Quoi. En fait, elle déchante très vite, mais la vie est dure. Quoi. Elle est très mal payée et puis elle trime toute la journée. Elle souffre donc, mais elle se relève inlassablement. C'est un personnage qui souffre. Hein. Donc là, c'est quand elle est atteinte de fièvre. Après l'annonce hein, de l'impossibilité de son mariage. Et puis ici, on a parlé de cette scène-là, hein, une scène qui est assez déchirante, hein, où elle lit la lettre des parents de Tsukasa. Malgré tout, c'est une héroïne, même si elle traverse voilà, tous ses états d'âme, elle est roublarde. Elle n'hésite pas à mentir, elle est émancipée. Et c'est ce traitement qui évite au film de sombrer dans le mélodrame tragique, dégoulinant, quoi. Et en fait, c'est une héroïne, on disait, résiliente, forte, roublarde, et en même temps assez exemplaire. C'est-à-dire que Tanaka et sa scénariste, en choisissant de développer, d'après le roman, donc ce personnage de Kuniko, c'est une manière aussi d'amener ce sujet délicat du débat sur la prostitution vient à un personnage exemplaire, parce que quand même, dans le centre, elles ne le sont pas toutes, aux yeux de la société japonaise. Ça, pardon, c'est un plan miroir d'outrage. Enfin, ce plan au crépuscule avec cette héroïne qui va vers son avenir, on retrouve exactement cette idée de mise en scène dans Outrage d'Aida Lupino. Donc c'est une héroïne, Kuniko, qui désire aller vers un ailleurs, en fait, qui désire se reconstruire, s'évader, ce que symbolise ce plan devant un chemin de fer, donc qui va creuser, qui va créer une ligne de fuite, en fait, dans le cadre. Elle a son propre avis sur la société japonaise, et y compris sur le couple. Elle pense que le couple ne lui est pas, destiné jusqu'à ce qu'elle rencontre Tsukasa à la fin du film. Mais en tout cas, là, c'est un plan qui l'indique très très bien. Quoi. C'est-à-dire qu'elle elle est presque ébahie par l'interaction entre ce couple dans un café qui se positionne devant elle. Et enfin, donc, ces derniers employeurs sont bienveillants et la respectent, c'est quand même la moindre des choses. Et donc, c'est ici que commence véritablement la reconstruction du personnage et qu'elle se dirige vers un chemin positif d'émancipation. Et à la fin du film, et c'est la dernière séquence qui est très belle hein, de La Nuit des Femmes, elle s'émancipe en rejoignant une communauté de planteuses de perles, de pêcheuses en apnée, qu'on appelle les AMA. Donc AMA. Donc dans le roman, en fait, la protagoniste elle est contrainte de retourner sur le trottoir. C'est quand même une conclusion assez déprimante. Ici, elle a le droit au salut par l'intermédiaire du travail physique. Donc en fait, elle s'émancipe à travers les outils imposés. Que ce soit à travers la prostitution et sa manière de changer, elle se réapproprie son corps, en fait, et elle se réapproprie son corps également dans le travail physique. Sachant qu'ici, elle échappe à la hiérarchie. Donc, c'est une communauté matriarcale, on peut dire, quoi, de planteuses, de pêcheuses en apnée. La scène finale, elle fait office d'utopie. En fait, on est sur un espace ouvert, ensoleillé, agréable, qui envisage la collectivité féminine comme un lieu d'entraide. Donc à un moment, Kuniko, elle trébuche et puis une collègue l'aide. Donc en fait, ce plan final et cette scène finale, elle met en scène Kuniko qui chemine vers un avenir qu'on imagine plus radieux, vers l'indépendance et la réinvention de soi. Parce que quoi qu'il en soit, on fait confiance à ce personnage, c'est-à-dire qu'elle sera toujours capable de se réinventer. Donc pour finir hein, sur La Nuit des Femmes, Kinuo Tanaka, elle annonce la nouvelle vague japonaise à travers le traitement de son film, donc réaliste, documentaire, en s'intéressant à un sujet de société. Elle annonce aussi les films sur la délinquance juvénile, donc il y en a eu vraiment plusieurs dans les années 60. Et surtout, elle émancipe les films sur les panpan, donc les panpan en japonais, ce sont les prostituées de rue. Elle émancipe ces films-là du joug masculin. C'est-à-dire que dans les panpan, il y a toujours des figures tutélaires d'hommes. Là, pas du tout. Et donc son film s'ouvre en plus sur cette perspective radieuse. Et enfin, elle fait des femmes les sujets indépendants de leur vie. Donc quand même, voilà. Je voulais finir sur ça. Et puis, on peut parler de plein d'autres sujets concernant La Nuit des Femmes, mais en tout cas, c'est quelques pistes d'analyse. Et on va vous laisser la parole si vous avez des réflexions. On peut discuter du film ensemble.
Peut-être que c'est aussi un film qui montre une tension entre les femmes elles-mêmes, parce qu'il y a énormément de personnages féminins, et autant on termine sur une entraide, autant on voit quand même que toutes ces femmes, leur communauté est parcourue de tensions qui sont extrêmement fortes et qui font qu'elles s'entre-déchirent. Et même cette employeuse, l'épouse de l'universitaire qui est si gentille, elle la renvoie quand même à sa condition d'ancienne prostituée et même elle justifie auprès de Tanaka que c'est un mariage qui n'est pas possible et qui la repousse finalement dans son ancien statut dont elle veut sortir.
Oui, en fait, pendant tout le film, l'absence de solidarité féminine, elle est justifiée par le cadre qu'impose cette société patriarcale et de ce que cette société fait, bon, aux hommes, pas tant que ça, c'est pas vraiment le sujet du film, mais surtout aux femmes, et dans dans ces communautés qui s'entre-déchirent, enfin, comme vous l'aviez mentionné, mais y compris, et ça, on le retrouve, en fait, le personnage de l'employeuse de Kuniko, elle renvoie quand même à ces notables qu'on rencontre au début du film, et qui se pensent quand même au-dessus, qui pensent être dans une forme de charité en visitant ces anciennes prostituées et qui les infantilisent. Donc elle n'infantilise pas, pardon. C'est ça, voilà, qui redore un petit peu leur blason, quoi. Et donc à la fin du film, on retrouve donc déçu par ce personnage qui était positif de l'employeuse de Kuniko et qui en fait se range du côté de la tradition étouffante japonaise et qui empêche l'émancipation de Kuniko. Donc tant que Kuniko travaille pour elle, et d'ailleurs elle lui propose de l'employer, puisqu'ils vont construire une deuxième serre, tant qu'elle reste sous son joug, tout va bien. Donc, Kuniko, elle fait le mur, littéralement, comme si c'était une adolescente, elle s'en va sans prévenir personne. Il y a une problématique sociale à l'intérieur du groupe des femmes.
Je trouve qu'il y a aussi l'inverse, il y a la dame à la fin qui l'aide, enfin, il y a aussi d'autres relations féminines, très forte et très tendre, moi j'ai trouvé, oui, la directrice du centre, oui voilà, je trouve que c'est contrasté, il y a pas mal de portraits différents en fait.
Donc c'est, je sais pas si vous avez entendu, mais en fait c'est un traitement contrasté des rapports féminins qui a évidemment pas que des rapports destructeurs, il y a des figures plus positives et qui sont dans l'écoute, qui sont attentive. Donc c'est ça qui est assez beau dans La Nuit des Femmes. C'est un film qui refuse de prendre parti, qui refuse de juger, qui est comme dans une exposition documentaire de rapports sociaux, de personnages dans des situations données et que tout n'est pas si simple, quoi. Enfin, rien n'est tout blanc ou tout noir. Enfin, c'est toujours assez, assez tempéré, quoi. Bon, même si quand même il y a des personnages qui sont particulièrement néfastes. On pense aux ouvrières, mais chaque femme a ses raisons, en fait, si on rentre dans le sujet.
Non, mais pour aller dans le sens de la complexité des personnages féminins, une des choses qui est intéressante dans le film, c'est qu'effectivement, il y a tout un panel de personnages féminins très divers. Et la notable qui le reçoit, la première scène qu'on voit, c'est quand même qu'elle sert son mari. En fait, elle ne fait que servir son mari. Donc, cette émancipation d'avoir un bon mari, on s'aperçoit qu'en fait, ça renvoie à la phrase que dit l'héroïne au début. Qu'est-ce qu'elles font chez elles avec leur mari ? Et puis, moi, je trouve qu'il y a des belles amitiés, je suis d'accord. Enfin, c'est juste que... Voilà, enfin, elle vit avec son ami, il y a des vraies amitiés. Et effectivement, moi j'ai été surprise par la subtilité sur les relations, y compris les relations homosexuelles. Bon, donc il y a la folle dont on peut rire et en fait c'est tragique. Mais il y a aussi la directrice, on ne sait pas bien, cette passion qu'elle a pour... Après, elle dit qu'elle est très intelligente, mais moi, je trouve ça assez subtil et moderne, pour le coup.
Moi, je m'interroge sur la place des prostituées. Il me semble que... Bon, là, on a compris qu'avec le changement législatif, la fermeture des maisons closes, elles deviennent un peu bannies de la société. Mais il me semblait que, dans la culture japonaise, les prostituées avaient une place plutôt positive de manière ancestrale. Ça me fait référence un peu aux geisha et autres. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à cet ordre-là.
Oui, mais ça, c'est à l'époque féodale. C'était une autre législation, un autre rapport. Là, on est quand même après la guerre au Japon. Et je pense qu'en fait, cette question de la prostitution, elle rejoint la sensation de ce pays, d'humiliation en fait, du Japon, qui a dû se vendre. Enfin, auprès des États-Unis, enfin, en fait, qui s'est prostituée presque. Enfin, il y a quelque chose qui entre en miroir dans la société japonaise à cette époque-là et qui, je pense, explique la cristallisation du débat sur les maisons closes et les prostituées. Donc les mœurs changent par rapport à ça. Après, je ne suis pas une spécialiste de la question, mais de ce que j'ai lu, les prostituées, oui, étaient mises en valeur, mais elles étaient esclavagisées, quoi. Les geishas, enfin, c'était vraiment pas du tout... enviable leur position dans la société de l'époque. Enfin, c'est des femmes qui quand même étaient assouvies, assujetties à leur époque. Là où, bah, par exemple, si on regarde des films, les films de Mizoguchi, on a quand même une communauté d'entraide de femmes assez modernes qui, évidemment, sont assujetties, mais en même temps qui essaient de réinventer par la communauté autre chose. Et ah ouais, évidemment, c'est le plus vieux métier du monde, mais il a quand même eu beaucoup d'évolution, surtout au Japon. Voilà. Encore une fois, je ne suis pas une spécialiste de la question. Mais
Moi, je m'interroge sur la lecture que vous avez faite de la dernière séquence, parce que vous en proposez une lecture finalement assez optimiste, dans laquelle donc, Kuniko intègre une communauté de femmes égalitaire, etc. Moi, je ne l'ai pas forcément vu comme ça. C'est-à-dire que je pense qu'on peut aussi voir une forme de relégation. Les amas, alors j'essayais un peu de chercher là, j'ai pas trouvé grand-chose, mais moi ça m'est apparu plutôt comme un sous-prolétariat paysan, voilà, donc y compris même socialement comme quelque chose qui est très, très marginal, très excluant. Et je ne sais pas si on peut faire cette lecture si optimiste. Voilà. Alors, effectivement, il y a cet échange de regards avec l'autre pêcheuse. Mais il y a aussi une exploitation physique très dure, un métier très dangereux. Hein, c'est des pêcheuses en apnée. Elles ne pêchent pas que des perles, d'ailleurs. Elles pêchent des algues, des ormeaux, etc. C'est un métier très dangereux. Donc, je ne sais pas si la lecture est si optimiste que ça.
Mais peut-être ce qu'on pourrait aussi penser de ça, c'est à travers la problématique du corps, quelque part, quand même, elle se réapproprie son corps par ce travail physique, même s'il est très dur. Moi, ça me fait penser au début du roman Geisha, quand on voit les parents qui ramassent le sel. C'est un des travaux qui sont très, très durs. Mais malgré tout, ça fait que ce corps n'est pas complètement vendu ou violé, même. Par d'autres personnages qui profiteraient de ce corps. Et peut-être aussi une des problématiques qu'on peut apporter, des tensions, c'est l'opposition entre les personnages féminins sur leur âge, on voit que souvent les prostituées, ce sont des très jeunes femmes, voire des jeunes filles. On a l'impression qu'elles sont extrêmement adolescentes, alors que les personnages féminins de femmes autour d'elles ont souvent un côté très bienveillant, très gentil. Il y en a même elles qui viennent qui apporter des gâteaux, des douceurs, ou qui les soignent, ou qui s'occupent d'elles. Et ça, ça apporte beaucoup de douceur, je pense. Peut-être aussi par rapport à la réalisatrice qui elle-même est une femme d'une quarantaine d'années qui voit ces petites comédiennes avec un regard super gentil, en fait. Et qui, elles aussi, sont des filles qui vivent de leur corps, quelque part, et qui vendent l'image de leur corps. Enfin, c'est...
Ah oui, on peut
c'est
réfléchir.
Très beau, je pense.
On peut réfléchir sur la condition d'actrice, oui. Je renvoie à Vertigo d'Alfred Hitchcock, quand même, tout le sujet du film. L'actorat comme prostitution. Mais c'est très, très intéressant, toutes ces pistes.
S'il n'y a pas d'autres questions, on va se quitter pour la pause déjeuner. Merci, merci à toutes.